Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer cette émission, je vous propose d'écouter la voix de l'écrivain à qui nous consacrons notre rencontre aujourd'hui, Romain Gary.
Je suis né en Russie en 1914, de parents qui étaient comédiens. Et mes premiers souvenirs sont des souvenirs de théâtre, des coulisses de théâtre. Je me souviens de la révolution soviétique de 17. J'étais couché sur la place Rouge. Il y avait des balles qui sifflaient. Ma mère se jetait sur moi pour me protéger. J'ai commencé à écrire à l'âge de 9 ans en russe. Ensuite, il y a eu des émigrations successives. D'abord en Pologne, en 1921, à l'âge de 7 ans, juste après la guerre entre les Polonais et les Russes. Ensuite, à l'âge de 14 ans, en France. J'ai changé donc 4 fois de culture. Je suis passé de la culture russe à la culture et à la littérature polonaise, donc. Ensuite, à 14 ans, en France. Et j'ai vécu 10 ans en Amérique et j'ai même écrit des romans en américain.
Voilà en quelques mots comment se présentait Romain Gary dans une série documentaire de Radio-Canada enregistrée quelques semaines avant sa mort en 1980. Une voie, un parcours, une traversée des cultures et des époques, une œuvre littéraire bien entendu qui a marqué le XXe siècle, mais qui continue de fasciner les contemporains et notre invité, entre autres, qui travaille depuis longtemps sur la légende et ses paradoxes. Bonjour Kerwin Speer.
Bonjour Catherine Fruchon.
Après une thèse sur l'écrivain politique, une collaboration à la Pléiade sur le fameux roman « La vie devant soi » sur lequel nous reviendrons, vous êtes l'auteur de « Monsieur Romain Gary » aux éditions Gallimard qui à terme sera une trilogie et dont les deux premiers volumes ont paru, l'un consacré aux années où il était consul général à Los Angeles et l'autre, le plus récent, aux années 60 à Paris où il était plus particulièrement écrivain et réalisateur. Deux livres très documentés, nourris de nombreuses heures de dépouillement d'archives certainement et qui se différencient d'une biographie classique au sens où vous faites un portrait de l'homme autant politique que culturel, tour à tour feu follet et solitaire, célébré et critiqué. Pourquoi, Kerwin Speer, avez-vous privilégié d'abord le récit et ensuite choisi de nous faire entrer dans sa vie à l'âge de 41 ans quand il est en poste diplomatique aux États-Unis ?
Eh bien parce que lisant Romain Gary à l'âge de 18 ou 20 ans, j'ai eu le sentiment de contracter auprès de lui une dette de lecteur, face aux leçons qui sont celles de son œuvre, qui pousse un petit enfant né en Europe de l'Est à se débattre face à tous les déterminismes, face aux lois de la nature, comme il les appelle dans La vie devant soi, et inculqué par le seul pouvoir de l'imaginaire cette faculté de se réinventer continuellement, maintes et maintes fois. Et cette dette de lecteur a quelque peu influencé mon travail de recherche sur l'œuvre de Romain Gary, vous l'avez dit, le dépouillement d'archives inédites, de correspondances privées, les écrits du diplomate, de nombreux entretiens réalisés avec des témoins de cette période. Et au fil de ce travail s'accumulait une matière qui n'était ni totalement universitaire, ni qui m'aurait permis de rédiger un essai, mais qui était véritablement romanesque. Et dans les interstices des archives, j'ai eu la volonté de me glisser par moi-même à mon tour le pouvoir de l'imaginaire pour ramener à la vie un quotidien distant de plus de 50 ans dans le cas des deux volets de la trilogie déjà parue. Et c'est cette volonté de mettre Romain Gary en scène, de le mettre en vie, de le mettre en action, qui m'a poussé à privilégier cette forme, qui est une forme plutôt hybride, qui est un récit littéraire et biographique, qui tire, on dit au cinéma, du côté du biopic. C'est peut-être la définition qui convient le mieux et qui m'a poussé à choisir trois périodes de la vie de Romain Gary qui me semblaient à la fois totalement déterminante dans son parcours et en même temps représentative de la complexité de l'homme. Complexité qui n'est pas possible d'embrasser en un seul livre, et c'est pourquoi la trilogie se prête bien à ce genre d'exercice.
Mais tout ce qui se passe avant donc 1956, qui est la première date par laquelle on rentre avec vous dans sa vie, donc son enfance à Vilna, aujourd'hui Vilnius en Lituanie, les années en Pologne, l'arrivée en France, la Seconde Guerre mondiale comme aviateur, comme résistant, ses débuts en littérature, ça vous passionne un peu moins qu'Erwin Speer ?
Non, ce sont des années absolument fondatrices de l'homme et de ce qu'il est devenu. Mais Romain Gary nous livre sa version de cette période de l'histoire, de son cheminement à travers l'Europe et à travers le siècle, jusqu'à son combat au sein de l'escadrille Lorraine, dans ce magnifique texte qu'est La promesse de l'aube. Et il est difficile d'écrire après Romain Gary sur cette période totalement déterminante.
Donc vous, Erwin Speer, vous reprenez la main, si j'ose dire, à un moment où s'arrête presque La promesse de l'aube, et au moment où il l'écrit. C'est ça qui est formidable dans ces années californiennes. Donc je le rappelle, 1956-1960, où vous captez vraiment presque l'essence de l'homme et de son œuvre, parce que c'est à ce moment-là aussi qu'il bascule, d'une époque à l'autre, d'une femme à l'autre, d'un engagement administratif à un autre qui est plus artistique. Et puis, d'une certaine façon, on a l'impression que son existence, telle qu'il se l'invente aussi, épouse les changements de l'histoire politique, internationale et culturelle.
C'est la complexité de cette époque que j'ai privilégiée comme fenêtre d'entrée pour dresser le portrait de Romain Gary. Des années charnières, à plus d'un titre. Charnières pour l'histoire, puisque vous l'avez évoqué. Il s'agit de la question parmi les plus capitales du XXe siècle, qui est celle du totalitarisme, la question de la guerre froide, la question de la guerre d'Algérie, et puis ce point de bascule de la 4e vers la 5e République. Tous ces événements se bousculent au cours d'une même période, lorsque Romain Gary est consul général de France à Los Angeles entre 1956 et 1960. Et pour autant, l'homme n'est pas totalement voué à la question diplomatique, et ses plus grandes interrogations sont peut-être dans son fort intérieur. Au cours de cette période, c'est la période au cours de laquelle il va recevoir le prix Goncourt 1956 pour Les Racines du Ciel et qu'il va décider de se lancer dans une entreprise littéraire intime, ce à quoi il ne s'était pas encore consacré pour les premiers textes de son œuvre, qui est l'écriture de son enfance, l'écriture de son exil et l'aveu de sa judéité. Et Romain Gary le fait au cours de cette période californienne. Et c'est ces deux bornes chronologiques, à la fois le Goncourt et la promesse de l'aube, qui me semblent être le portrait le plus intime que l'on puisse dresser du personnage. Et ce qui m'importait également, c'était de l'inscrire parmi le siècle, parmi les événements du siècle, mais également parmi ses contemporains, au premier chef desquels Albert Camus et André Malraux.
Et Kennedy, le futur prochain président des États-Unis, ce n'est pas rien, parce qu'on le voit grâce à vous dans sa vie quotidienne. Quand il se lève le matin, alors il a à ses côtés aussi son épouse actuelle Leslie Blanche, qui est aussi une intellectuelle, qui même d'ailleurs est presque plus célèbre que lui à cette époque, parce qu'elle a publié des livres qui ont compté. Donc on le voit se lever, on le voit répondre à ses injonctions administratives, aller à la rencontre des uns et des autres, et puis parler avec sa secrétaire Odette. Or, Erwin Speer, vous nous annoncez, en fin de ce premier volume, que vous avez retrouvé Odette. C'est cela ?
J'ai retrouvé Odette de Bénédictis un beau matin de l'année 2013 sur les pages blanches américaines, avec une adresse à Beverly Hills. Et j'ai appelé. Il devait être 18h du soir à Paris, 9h du matin à Los Angeles. Et Odette a été surprise de voir surgir l'histoire, comme ça, en quelque sorte, par la petite porte et par cet appel téléphonique. Et peu à peu, s'est nouée une relation de confiance et d'amitié qui m'a conduit à lui rendre visite et à toujours correspondre avec elle. Et ce qui était fondamental, c'était de restituer Odette, qui était donc la secrétaire des consuls généraux à Los Angeles entre les années 1950 et les années 1990. Ce qui m'importait, c'était de restituer ce personnage à sa juste place et ce qui me permettait également d'aborder Romain Gary par l'intime, avec l'anecdote, avec l'événement qui surgit, avec la vie d'un poste diplomatique qui peut, à certains égards, s'apparenter à un huis clos, mais un huis clos avec des personnages haut en couleur. Et le personnage d'Odette a été véritablement une complice dans la construction de la légende Romain Gary. Elle me racontait notamment que lors de déjeuners qu'il passait sur Hollywood Boulevard, eh bien Romain Gary était toujours pensif, absorbé par son œuvre littéraire, et se mettait parfois à griffonner au revers d'un menu ou sur une serviette en papier. Et elle m'a dit, l'avoir questionné, en lui disant « Mais que faites-vous ?» Il lui dit « Je cherche un titre. » Il était absorbé par ses pensées « Je cherche un titre pour mon futur livre. » Et Romain Gary était convaincu qu'il allait livrer une grande œuvre avec Les Racines du Ciel, dont il n'avait pas encore trouvé le titre. Et dans un moment d'égarement dans ses pensées, elle lui dit « Je parie que vous allez avoir le Goncourt. » Et Romain Gary lui répond « Ce qui est terrible, c'est qu'on ne peut l'avoir qu'une fois. »
Et ça en dit bien long sur ce qui arrivera quelques années plus tard. En effet, c'est un des ressorts sans doute de l'esprit de Romain Gary. En tout cas, avec ce prix Goncourt donc pour Les Racines du Ciel en 1956, l'adaptation qui va suivre au cinéma par John Huston, la reconnaissance diplomatique en France comme aux États-Unis, ses succès littéraires en français et en anglais, puisqu'il écrit dans les deux langues, suivi de cette rédaction de La Promesse de l'Aube, qui sera son grand œuvre, sans oublier son coup de foudre pour la jeune actrice américaine Jean Seberg qu'il va rencontrer dans ces années-là. On a l'impression qu'il vit un peu ses années de gloire. Est-ce que c'est le cas, Kerwin Spear?
C'est totalement le cas. Et ce que m'a également confié Odette, c'est que lors du dernier 14 juillet, à l'été 1960, trois jours avant que Romain Gary ne prenne un vol transatlantique pour rejoindre Paris, eh bien, il s'était enfermé dans son bureau et il pleurait. Il pleurait avec cette confidence, avoir eu conscience d'avoir vécu les plus belles années de sa vie. C'est également sa rupture avec Leslie Blanche, qui l'aura accompagné pendant 15 ans, cette journaliste britannique qu'il aura rencontrée à Londres en 1944 et qui, comme vous l'avez dit, comptait énormément dans la formation de son œuvre et la formation de l'homme, et qui également, par son habileté, par son sens des relations humaines, joue un rôle dans le rang de la France à Los Angeles et dans la vie du consulat général.
Je vous propose de faire une petite pause musicale avant d'entrer dans cette deuxième partie de la vie de Romain Gary que vous nous proposez. J'ai lu que dans le questionnaire de Proust, il avait répondu que Bob Dylan était son musicien préféré. Est-ce que vous confirmez, Kerwin Spear?
Tout à fait. J'ai retrouvé le questionnaire de Proust rédigé de la main de Romain Gary. Et ce qui est étonnant, c'est les réponses qu'il peut y apporter, qui sont représentatives de toute une époque, de la France des années 60. Ce qui est également tout un autre imaginaire qui donne lieu à un deuxième texte. Monsieur Romain Gary, écrivain réalisateur.
Dont on parle dans un instant. Mais d'abord, Bob Dylan.
I once loved a girl, her skin it was bronze, with the innocence of a lamb, she was gentle like a fawn. I courted her proudly, but now she is gone. Gone as the season she's taken. In a young summer's youth, I stole her away from her mother and sister, though close did they stay. Each one of them suffering from the failures of that day. With strings of guilt they tried hard to guide us.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI pour une émission spéciale aujourd'hui consacrée à Romain Gary, grâce à Kerwin Spear qui, après avoir publié Monsieur Romain Gary, consul général de France, vient de faire paraître Monsieur Romain Gary, écrivain, réalisateur, chez Gallimard, le deuxième volume d'une trilogie à terme. Après Gary le flamboyant, qui brûle et brille de tout feu, arrive donc cette nouvelle décennie, les années 60, en France, où là, derrière la légende qu'il s'est construite, commencent à se manifester les premiers signes d'un mal-être qui, s'il a toujours été en lui, finira par ne plus le quitter. Pour preuve, un échec au théâtre, un échec comme essayiste littéraire, échec de son deuxième mariage, échec peut-être de son œuvre cinématographique. Que se passe-t-il pour Romain Gary, Kerwin Spear ?
Eh bien, Romain Gary a la volonté, en rentrant à Paris en 1960, au bras de Jean Seberg, cette jeune actrice de 24 ans, sa cadette, a la volonté d'être un artiste total. Et cela se traduit un jour par la volonté de peindre, l'autre d'être adapté au théâtre ou encore d'écrire un essai sur la théorie littéraire. Preuve en est que Romain Gary est véritablement un intellectuel qui cherche sa place à Saint-Germain-des-Prés. Le roman, donc, n'est plus sa seule façon de s'exprimer. Et cela correspond bien aussi à l'époque qu'il traverse, car il accompagne à de nombreuses reprises Jean Seberg en marge de ses tournages. On le voit assis dans des fauteuils de réalisateurs ou fumer le cigare dans des loges d'acteurs. Et Romain Gary a moins de temps, en réalité, pour se consacrer à la littérature. Il cherche des formes d'expression plus brèves ou plus variées. Il s'essaie également à la nouvelle, avec ce recueil de textes « Les oiseaux vont mourir au Pérou », qui donnera lieu, en 1967...
À son premier film.
À son premier film, qui montrera également une volonté d'être un artiste total et d'aller vers toutes les formes d'expression. Mais ce qui m'intéressait, en mettant en lumière ces différentes zones d'ombre de sa biographie, son rapport à la peinture, l'influence de l'expressionnisme, du cinéma et du théâtre, c'était également de poursuivre l'exploration de l'homme, dont les tréfonds, dans ces années 60, nous plongent sur une ligne de crête, qui est une éternelle ligne de crête chez ce cher Romain Gary, entre espoir et désespoir, entre frénésie créatrice et mélancolie. Et c'est la poursuite de cette exploration qui m'a porté de mener, avant d'expliquer comment Romain Gary cherchera à se réinventer dans une dernière partie de sa vie, sous le pseudonyme d'un autre, sous le pseudonyme d'Émile Ajar.
On y arrive dans quelques instants. Mais avant cela, arrêtons-nous sur cette époque, parce que ce qui est remarquable, et ce qu'on apprend grâce à vous, Kerwin Spear, c'est que, bien sûr, il y a ces revers littéraires, la pièce de théâtre, l'essai qui ne trouve pas grâce auprès de la critique française. En revanche, le succès est toujours intact aux États-Unis. Parce que, rappelons-le, il écrit donc dans les deux langues, français et anglais. Et ça, c'est vraiment une singularité qui n'a pas d'équivalent à cette époque, me semble-t-il.
Totalement. Ce qui est une place à part dans le paysage littéraire, c'est-à-dire que Romain Gary est un écrivain qui cherche son rang de haute lutte à Saint-Germain-des-Prés, alors que sa notoriété est clairement établie du côté de New York. D'ailleurs, La promesse de l'aube donne lieu à une adaptation théâtrale à Broadway à l'hiver 1960. Et Romain Gary, véritablement, cherche sa place de part et d'autre de l'Atlantique. Ce qui explique aussi en partie sa marginalité par rapport au paysage littéraire, c'est-à-dire que ses influences littéraires sont peut-être plus à chercher du côté des États-Unis que de la France. Et en particulier s'agissant de la vague du nouveau roman qui déferle dans les librairies de Saint-Germain au mi-temps des années 60, Romain Gary se sent totalement étranger à cette mode, préfère le roman picaresque, une écriture très visuelle, une écriture rythmée, accordant beaucoup de place au dialogue, à des personnages hauts en couleur, ce qui explique que bon nombre de ses succès auprès du public, de grands succès de librairie, pas toujours, mais ce qui explique que la critique parisienne également ait du mal à l'aborder, ait du mal à rendre compte de la pluridisciplinarité de cet artiste, et du mal à rendre compte de la complexité de l'homme et de ses influences littéraires.
Donc, vous l'avez dit, il s'essaye à la peinture sans grande réussite, et ça donne lieu d'ailleurs à quelques scènes savoureuses où le pauvre est un peu ridiculisé par un galeriste qui a un œil avisé sur son travail. Et donc, ce qu'on avait oublié, et que vous nous rappelez, Kerwin Spear, c'est qu'il a été également cinéaste et a réalisé donc deux films avec sa femme, Jean Seberg, qui est l'icône de la nouvelle vague. On se souvient d'elle, évidemment, dans « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard, mais pas seulement. Et là encore, il se heurte à un mur d'incompréhension. Pourquoi ? C'est un mauvais cinéaste, selon vous ?
Alors, c'est un écrivain qui a été frustré par bon nombre des adaptations cinématographiques de son œuvre littéraire. Il a été extrêmement blessé par l'adaptation des Racines du ciel par John Huston avec Daryl Zanuck à la production. Et il a la volonté, au mi-temps des années 60, eh bien, de passer de l'autre côté de la caméra pour maîtriser l'intégralité de l'adaptation de l'une de ses nouvelles, « Les oiseaux vont mourir au Pérou ». Et c'est également une volonté plus intime pour le mari d'une actrice qui connaît alors eh bien, le creux de la vague, après avoir eu des succès que l'on connaît dans « À bout de souffle », qui est devenue véritablement une icône du paysage cinématographique. Jean Seberg n'a plus les rôles auxquels elle prétendait au début de sa carrière. Et c'est la volonté pour Romain Gary de lui donner un rôle-titre dans un film d'art et essai qui serait projeté dans les plus beaux cinémas de Paris. C'est donc un cadeau fait à son épouse pour un rôle sur mesure. Et c'était également une zone d'ombre de sa biographie. C'est-à-dire que 10 ans cela, on pensait avoir tout dit. Et en réalité, je me suis beaucoup penché sur le sujet. Les archives, s'agissant d'adaptation d'un film, sont assez minces. On peut retrouver des contrats, mais très peu de choses. Et donc, j'ai cherché des témoins. Et j'ai retrouvé Michel Vine, qui était le directeur technique sur le tournage, qui faisait office également d'assistant metteur en scène auprès de Romain Gary, et un acteur, tout jeune à l'époque, Jean-Pierre Calfon. Et l'un et l'autre m'ont raconté les coulisses du tournage, de ce tournage à Huelva, au sud de l'Espagne, qui semblait être véritablement une comédie grecque, avec des personnages déambulant sur des plages totalement vierges et préservées. Ils m'ont raconté également comment le couple, en marge de ce tournage, achevait finalement de se déliter face à un cadeau qui s'est révélé être le dernier cadeau offert par Romain Gary à Jean Seberg.
Un cadeau empoisonné pour les deux, hélas. Une page se tourne et c'est là qu'il se réinvente en effet avec en partie Émile Ajar, pseudonyme qu'il choisit pour écrire un nouveau roman et nom de plume qu'il donne à l'un de ses petits cousins, Paul Pavlovitch, qui en public sera Émile Ajar, l'auteur de La vie devant soi qui en 1975 obtiendra le prix Goncourt, soit le deuxième pour Gary, alors qu'il est impossible qu'un même auteur soit récompensé deux fois. Dans un instant, je vous donne la parole, Kerwin Spear, à ce sujet. Mais d'abord, je vous propose d'aller chez Christie's, à Paris, où la semaine dernière, dans le cadre d'une vente aux enchères en ligne, un exemplaire de La vie devant soi a été proposé à l'achat à partir de 10 000 euros en raison de sa particularité, comme l'a expliqué Vincent Bellois, spécialiste au département Livres et Manuscrits chez Christie's.
Ce qui est très intéressant, c'est sa provenance de l'époque. C'est ça qui dans de ce cas précis, fait tout. Parce que l'exemplaire lui-même, c'est un exemplaire assez courant. C'est un exemplaire sur papier ordinaire, donc ce n'est pas un exemplaire qui vient du tirage de luxe. Par contre, sur le premier feuillet blanc, il y a un élément que n'ont pas les autres exemplaires. C'est ce qu'on appelle cet envoi, c'est-à-dire une dédicace manuscrite, qui est adressée à Raymond Queneau. Et cette dédicace adressée à Raymond Queneau, elle porte une signature, et c'est la signature d'Émile Ajar.
Officiellement, l'auteur du livre, ce qui paraît naturel jusqu'ici.
C'est exactement ça, c'est le nom qui orne la couverture, c'est le nom qui orne la page de titre. Donc, officiellement, c'est l'auteur du livre. On sait aujourd'hui que sous le masque d'Émile Ajar se cachait en réalité Romain Gary. Donc c'est évidemment un jeu de Romain Gary, c'est un choix, c'est une vraie mystification littéraire qu'élabore Romain Gary. Et donc La vie devant soi, ce n'est pas le premier livre qu'il publie sous le pseudonyme d'Émile Ajar. Le premier livre qu'il publie sous ce nom-là, c'était Gros câlin. Par contre, avec La vie devant soi, Romain Gary, il rentre à nouveau dans l'histoire littéraire française en remportant le prix Goncourt pour la deuxième fois, ce qui normalement est impossible. Là, c'est rendu possible justement parce que Gary publie ce texte-là sous le pseudonyme d'Émile Ajar.
Est-ce que vous voulez bien, Vincent Bellois, puisque vous avez l'exemplaire sous les yeux, nous lire cette dédicace ?
Alors, sur le premier feuillet blanc du volume, on peut lire « Pour Monsieur Raymond Queneau, avec toute mon admiration, Émile Ajar ».
Ce qui est encore plus savoureux, d'ailleurs, c'est que Raymond Queneau, en 1956, n'avait pas donné sa voix au Goncourt, que Romain Gary a eu pour Les Racines du Ciel. C'était un des rares membres du jury qui n'avait pas voté pour Romain Gary. Donc on se demande aussi ici dans quelle mesure Gary ne jubile pas d'envoyer cet exemplaire à un auteur qui ne l'a pas suivi et qui, paradoxalement, va lui offrir son deuxième prix Goncourt en 1975.
On imagine très bien Romain Gary jubilé, effectivement. On imagine un petit sourire en coin au moment de dicter cet envoi à Raymond Queneau, voilà, qu'on ne présente plus, mais en tout cas Raymond Queneau qui a été membre du comité de lecture chez Gallimard au moment de la parution de Gros Câlin, qui était un des premiers à s'être douté que l'histoire qui était racontée d'un auteur tout jeune, tout débutant, cet Émile Ajar, que personne ne connaissait, qu'en fait c'était une fable et que probablement il fallait y voir un écrivain confirmé, en fait. Raymond Queneau avait flairé qu'il y avait quelque chose. Raymond Queneau lui-même était assez friand de supercherie littéraire. C'est ça aussi qui rend cet envoi assez savoureux, c'est que Raymond Queneau lui-même, il a écrit plusieurs textes sous pseudonyme. Et en plus, Raymond Queneau a fait partie des noms qui étaient avancés par la presse, par les critiques, parfois par le public, comme étant peut-être celui qui se cachait derrière le masque d'Émile Ajar. Donc c'est assez fascinant parce qu'on a un peu voilà, tous ces aspects qui se rencontrent et qui cohabitent, coexistent avec, dans cette dédicace.
À votre connaissance, est-ce que cette dédicace est signée d'Émile Ajar ou de Romain Gary ?
Alors, évidemment, ça a été de longues interrogations. Qui tenait le stylo au moment de rédiger cette petite dédicace ? Les trois noms, en fait, vont se retrouver dans cette histoire, c'est-à-dire que c'est la main de Paul Pavlovitch, probablement, mais sous la dictée de Romain Gary.
Ce volume, donc, exceptionnel, il est estimé entre 10 000 et 15 000 euros. Vous espérez peut-être dépasser ce plafond ?
Nous, évidemment, notre objectif, c'est qu'il fasse le plus beau résultat possible pour notre client vendeur comme pour nous, effectivement. Il y a toujours une large part d'incertitude avec les enchères, que ce soit des enchères en salle ou des enchères sur Internet, comme pour cette vente-là. Mais on est assez confiant.
Et ils ont raison d'être confiants chez Christie's parce que finalement, cet exemplaire de La vie devant soi a été adjugé et vendu au prix de 25 000 euros. C'est vous l'acheteur, Kerwin Spear ?
Non, malheureusement, même si, si j'en avais les moyens, j'aurais acheté l'intégralité des manuscrits de Romain Gary qui se sont retrouvés sur le marché des enchères l'an dernier. Et je les aurais versés à une institution comme l'IMEC qui les a eu un temps et qui assure un rôle de vitrine pour la recherche.
En tout cas, avec ce sujet, on arrive donc à ce troisième volume que vous allez nous proposer jusqu'au suicide de Romain Gary en 1980.
Jusqu'au suicide de Romain Gary et jusqu'au petit opuscule qu'il nous laisse après sa mort et que Gallimard publie en 1981 sous le beau titre de « Vie et mort d'Émile Ajar » avec cette phrase conclusive « Je me suis enfin exprimé ».
Il y a encore donc beaucoup de choses à dire et à lire autour de Romain Gary. En attendant le troisième volume que vous allez nous proposer, Kerwin Spear, et qui arrivera aussi après les mémoires de Paul Pavlovitch, qui en février prochain a décidé à nouveau de se livrer sur cette histoire qu'il avait déjà racontée dans un premier volume juste après la mort de Romain Gary. Donc en attendant ce troisième volume, je rappelle les titres des deux premiers qui sont disponibles, dont un d'ailleurs en folio, en version poche, Monsieur Romain Gary, consul général de France, et Monsieur Romain Gary, écrivain, réalisateur, qui viennent paraître aux éditions Gallimard.
Merci infiniment.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.
Tous les